La planèse du jazz, Laurent et Pascal Verdoux.
Bonsoir à tous.
Bonsoir.
Nous vous avions promis que notre série, qui remonte déjà très vieux, à juste titre et qui explore les titres des morceaux de jazz, allait maintenant s'attacher au supplément après avoir fait le dictionnaire. Alors le supplément, il y a moins de choses à trouver dedans, mais quand même, il y en a pas mal. Donc ça va nous faire plusieurs émissions et nous allons donc certainement déraper ce cher à juste titre jusqu'à la rentrée de septembre 2015. En attendant, nous ouvrons à la lettre A et sur quoi tombons-nous ?
Sur Errol Garner.
Et un morceau qui s'appelle
Afternoon of an Elf.
L'après-midi d'un elfe.
Bien sûr, ça fait penser à des tas de choses, l'après-midi d'un elfe. Parce que Elf, c'était le surnom d'Errol Garner. Effectivement, c'était un petit bonhomme comme ça, mince, vif, un peu lunaire, et qui passait dans la vie comme on passe de bulle en bulle, vous voyez ?
Avec une très grande légèreté. Puis il était toujours souriant. Garner, c'était un type souriant, voilà.
Peut-être que le titre « Afternoon of an Elf », c'est-à-dire « Après-midi d'un elfe », ça vous a bien évoqué quelque chose ?
Ah ben ça mène tout droit, à mon avis, et même à l'avis de beaucoup de monde, à l'après-midi d'un faune de Debussy. Et il faut savoir que le pianiste Garner aimait beaucoup Debussy, et ça s'entend pas mal. En tout cas, voici l'après-midi d'un Garner, d'un elfe.
Thank you.
Le morceau suivant que nous offre ce supplément s'appelle « Alerado ». Alors, ça n'a rien à voir avec le radeau de la Méduse, quoique.
Oui, parce que au cours de cette séance avec Paul Gonzalves et Kat Anderson, il y a eu plein d'incidents. Le premier, ça a été que Kat Anderson, pour cet enregistrement, s'est aperçu que sa trompette était partie avec les bagages de Duke Ellington et que donc il n'avait plus de trompette. Alors, comme l'ami Verdot se trouvait par là, comme toujours, puisque c'est un très bon ami de Kat Anderson, eh bien, Kat lui a dit « Laurent,
peux-tu me prêter ton trompette ?» Et bien sûr, à l'époque, j'avais une King, qui était une excellente trompette d'ailleurs, et je lui ai même prêté mon embouchure, ce qui a prouvé à tout un chacun que les fameux suraigus de Kat Anderson n'étaient pas dus à une embouchure spéciale.
Puisque, mais à Kat Anderson lui-même.
Exactement, d'ailleurs, il disait volontiers « Vous savez, ce n'est pas l'embouchure qui fait la note. » Toujours est-il que à cette séance, le superviseur, d'où est tiré par contraction le titre « Alerado », qui lui avait été dédié, le superviseur a fait une erreur de casting, ou plutôt, il a fait un choix sans pouvoir maîtriser le comportement du batteur. Il y avait des formidables musiciens à cette séance, et le batteur s'est avéré d'une raideur et d'une surcharge absolument catastrophique.
Ça arrive quand on est un peu pris ou par le temps, ou parce qu'on ne connaît pas tout à fait assez bien. En attendant, c'est vrai que ça a posé un problème. Alors vous me direz, mais alors vous nous passez quelque chose de moche ?
Eh bien justement.
Non, non.
Eh bien, oui, justement pas. Car il y a dans ce disque un morceau fabuleux. C'est une ballade jouée par Paul Gonzalves avec des fonds instrumentaux très doux. Et ça s'appelle
« I cover the waterfront ».
Et c'est là qu'il faut rendre grâce à ce superviseur, car sans lui, cette magnifique ballade n'aurait jamais été enregistrée. Et Paul Gonzalves, qui était un merveilleux saxophoniste ténor, n'a pas eu très souvent l'occasion d'enregistrer sous son nom. Voici maintenant un endroit redoutable.
Et oui, et pourtant, cet endroit-là, Paul Bascombe va le magnifier puisque le morceau que nous allons vous passer s'appelle « Alley B on 5th Avenue », c'est-à-dire la 5e avenue.
Mais ce n'est pas la 5e avenue de New York avec tous ces magasins.
Ah non,
non, non, non.
Oh là là, c'est le bas-fond du bas-fond de l'horreur.
Car c'est la 5e avenue du quartier sud de Birmingham, dans l'Alabama. Et Paul Bascombe, dont le frère était trompettiste et qui était lui-même saxophoniste et qui, après, a fait carrière comme son frère chez Erskine Hawkins à New York, Paul Bascombe était natif de cet endroit. Et il y a joué quand il était au début de sa carrière, naturellement.
Il a expliqué, ce Paul, que c'était un endroit où il y avait des souteneurs.
Des soutenus.
Des voleurs.
Des toxicomanes à l'appel.
Des entremetteurs de toutes sortes.
Oui, des négociants de tout ce que vous pourriez imaginer. Et naturellement, tout un collège d'ivrognes.
On donnait même le nom à cette rue de baquet de sang.
Bucket of blood. Et il y avait, pour régner sur cet endroit particulièrement édifiant, une femme dont le surnom était Tough Tuffy, c'est-à-dire à la fois dur à cuire et volcanique.
C'est vous dire que c'était une sacrée mémé, celle-là.
Oui, et elle avait la réputation de pouvoir terrasser n'importe quel homme à main nue, c'est vous dire.
Messieurs, ne vous y frottez pas.
Et bien, quand on entend tout ça, on se dit que le morceau que vous allez entendre, qui s'appelle donc « Alley B on 5th Avenue », est bien anodin par rapport à ce folklore-là. Et nous allons passer maintenant des bas-fonds les plus sordides à la politesse la plus raffinée et même excessive et caricaturale. Le morceau s'appelle « Alphonse et Gaston ».
Oui, ça vient d'un spectacle de vaudeville qui mettait en scène deux Parisiens type Belle Époque et on les entend dialoguer.
Il faut dire que ce spectacle se passait lui-même à la Belle Époque. Donc c'était la dernière mode de Paris, si tu veux, sur le moment.
Alors là, vous pensez si les Américains aiment ça?
Alors, naturellement, c'était caricatural et c'était la politesse excessive. On était à la limite du parler pour ne rien dire. Passez devant, je vous en prie, mon cher Alphonse. Non, je n'en ferai rien, mon cher Gaston. Et ça pouvait durer comme ça 10 minutes avant que l'un ou l'autre se décide à franchir la porte et à entrer en scène. Et ce spectacle a eu un énorme succès, à tel point que, dans le langage américain courant, Alphonse et Gaston, c'est resté longtemps une expression pour désigner des gens obséquieux.
Et ceux qui jouent Alphonse et Gaston, ben c'est Rex Stewart. Écoutez Williams.
Mais ils ne sont pas tout seuls. L'organisateur de cette séance d'enregistrement a eu l'idée de mettre face à face, d'ailleurs j'ai la photo, deux trompettistes, donc Rex et Cootie, deux trombonistes, Higginbotham et Lawrence Brown, et deux saxophonistes ténors, Bud Freeman et Coleman Hawkins. Avec tout ça, une rythmique qui tourne bien. Hein. Et le morceau consiste à ce que chacun, dans son instrument, prenne un chorus sur le blues, et puis l'autre lui répond sur le blues, ainsi de suite. Alors on va passer des trombones au sax ténor et aux trompettes. Et je dois dire que l'atmosphère de ce morceau est particulièrement détendue.
Et les trompettes s'amusent, parce qu'ils s'imitent l'un l'autre en plus.
Oui, de la part d'un monsieur aussi sérieux et un pas vide que Cootie Williams, c'est assez étonnant d'entendre le jeu à mi-piston de son vis-à-vis Rex Stewart. Enfin, on voulait savourer tout ça. C'est un blues magnifique, de très longue durée, Alphonse et Gaston. Bye. Nous avons trouvé dans ce supplément édifiant le nom de Anna Ryan.
On s'est posé bien des questions, mais en réalité, Milt Buckner nous a lui-même raconté qui était Anna Ryan.
Parce qu'il venait justement d'enregistrer, et d'ailleurs nous y étions, le morceau que vous allez entendre et qu'il avait dit. Ce morceau s'appellera Anna Ryan.
Eh bien, figurez-vous que c'est une histoire où Buckner était tout jeuneau.
Oui, c'est délicat à raconter quand même.
Non, non, mais allez, zou. Et il avait décidé de connaître enfin, pour la première fois, une dame.
Donc il est allé dans un établissement.
Fait pour. Et il a trouvé tout à fait ce qu'il lui fallait.
Et ça s'est passé au premier étage, pendant que le pianiste maison jouait au rez-de-chaussée juste en dessous.
Et vous savez qui c'était le pianiste maison ?
C'était Art Tatum. Et je dois dire que quand Milt racontait ça, c'était à mourir de rire. Parce que le mélange des deux, nous expliquait-il, était quelque chose d'indicible. Vous aurez deviné que la madame de cet établissement, qui a beaucoup fait finalement pour l'histoire du jazz, parce que quand même, Milt Buckner, c'était pas n'importe qui, cette madame s'appelait...
Anna Riad.
Tu sais que beaucoup de jazzmen de la première et la deuxième génération ont commencé sous chapiteau.
Et ça n'a rien finalement d'étonnant parce que les gens à l'époque étaient quand même souvent relativement modestes. Et surtout, dans une Amérique qui bouge beaucoup, on utilise énormément de chapiteaux qui vont d'une ville à l'autre. D'ailleurs, actuellement, on connaît aussi ça, même maintenant, c'est-à-dire que nous avons des structures légères qui s'appellent des barnums ou autres. C'est bien souvent, dans une fête, on trouve ça. Hein. Sauf que là, c'est vraiment la toiture qui correspond à un cirque. Pointu.
Voilà, le vrai chapiteau, quoi.
Oui, celle qui a un grand mât central qui tient tout le reste.
Voilà, ou deux, quelquefois. Hein, quand oui. Les cirques sont grands. Donc, beaucoup de musiciens ont commencé comme ça. Et Lester Young n'a pas fait exception, puisque quand il était gamin, il jouait de la batterie dans l'orchestre de son père, lequel jouait sous chapiteau très souvent. Il en est resté un blues que Lester a appelé...
Big Top Blues.
Parce que là-bas, le Big Top, c'est le grand chapiteau. Et sachez une chose, c'est que sous chapiteau, il y a une technique spéciale pour souffler. Et si vous êtes sage, on vous dira comment.
Je suis sûre que vous avez été sage, rien que par curiosité, pour savoir comment on joue de la trompette sous un chapiteau.
Eh bien, mon conseil, et je le tiens de Doc Chitam lui-même, que j'ai vu faire sous chapiteau, c'est d'incliner la trompette vers le haut, de telle sorte qu'elle soit parallèle à la pente du chapiteau. Ainsi, le son va glisser le long de la toile et retomber sur les gens, quelquefois très loin, parce qu'il y a de très grands chapiteaux. Quand tu joues à Marciac ou dans des endroits comme ça, il y a 5000 personnes dessous, il faut que le son porte très loin. Et là, pas besoin de micro. Et croyez-moi, c'est très efficace et ça favorise le joli son par-dessus le marché.
Le morceau suivant, il est très émouvant.
Et très spécial.
Il s'appelle « Black Christ of the Andes », ce qui veut dire « le Christ noir des Andes ».
Nous sommes donc en Amérique du Sud.
Eh bien, Marie-Lou Williams a voulu mettre à l'honneur quelqu'un qui l'a beaucoup frappé, quelqu'un qui a été canonisé. C'est un métis.
Fils d'un noble espagnol et d'une esclave noire et qui est né au Pérou. Mais à l'époque des conquistadors, on est au XVIe siècle. Là.
Et cet homme-là s'est avéré tellement, j'allais dire, œcuménique entre les Noirs et les Blancs. C'était un lien, qu'il est devenu le saint patron de l'harmonie interraciale.
Il est né en 1579, mort en 1639 et canonisé en 1962.
On y a mis le temps quand même.
Hein. Oui, on y a mis le temps. Il s'appelle Saint-Martin. C'est un Saint-Martin de plus. D'ailleurs, son profil est tout à fait compatible avec celui de notre Saint-Martin à nous. Hein, finalement.
Absolument. Il partage.
Donc, très ému par cette biographie, Marie-Lou Williams a composé le morceau que vous allez entendre, qui est un peu aux frontières du jazz, mais c'est son inspiration.
Et c'est très beau.
Feed and cure us now, we pray.
Les hasards du supplément nous amènent maintenant à un blues qui s'appelle
Black Matty.
Et c'est vraiment une plongée radicale dans le blues rustique et profond.
Figurez-vous que Sleepy John Estes, qui est un homme plutôt calme, d'ailleurs on l'appelle Sleepy, ce qui veut dire un peu endormi.
Oui, nous l'avons rencontré une fois et je dois dire que c'était un petit bonhomme d'un calme extraordinaire.
Il y a une personne qui peut le rendre fou. C'est une certaine Black Matty. Et quand on dit qu'elle peut, ben elle l'a fait.
Ah là, il est vraiment sorti de ses gonds. Ben, c'était sa copine, en fait. Et elle était insupportable.
Et tellement insupportable qu'il a failli l'étrangler.
Mais l'étrangler tout de bon, dans un accès de colère totalement aveugle. Et au moment où la pauvre Matty, parce qu'emmerdeuse ou pas, c'était la pauvre Matty dans cette situation-là. D'ailleurs, c'est très curieux, quand on imagine ce petit bonhomme en train de sauter à la gorge de sa mémère et de le Cyril Kiki, c'est quand même étonnant à imaginer.
Donc, au moment, j'allais dire fatal, il a entendu une voix.
Et cette voix, c'était celle de Dieu qui lui disait « John Estes, s'il te plaît, ne termine pas le travail ».
Why did you stay last night? With your hair all tangled, clothes ain't fitting you right. With your hair all tangled, clothes ain't fitting you right. Now, when I had money, hello, sugar pie. Now I done spent all my money, goodbye, country guy. Now I done spent all my money, goodbye, country guy. Lord, my heart drips sorrow till come a rolling down. Now you know about that, babe, think to leave your town. Now you know about that, baby. Think not to leave your town. Now life ain't worth living if you ain't with the one you love. Lord, life ain't worth living if you ain't with the one you love. Now life ain't worth living if you ain't with the one you love. Now you're three times seven, you know what you want I do. Now the day that you quit me, I won't be married to you. Now the day that you quit me, I won't be married to you.
Et pour conclure l'émission d'aujourd'hui, nous allons vous emmener en fusée. Ça s'appelle...
The blast-off.
Ben, ça, c'est du jargon d'astronaute. Pour faire court, ça veut dire plein pot. Le blast-off, eh bien, c'est joué par...
Hal Singer et Charlie Shevers.
Dans un disque magnifique. Bien franchement, je pense que pour simplement vous dire que blast-off, ça veut dire plein pot, ben, on ne serait peut-être pas arrêté. Mais cet album, dont le titre général était Blue Stompin', est un disque absolument exceptionnel, paru dans les années 60 et qui a immédiatement été le prix mondial du Hot Club de France. Fabuleux d'un bout à l'autre. The Blast-off est un de ses meilleurs moments, donc...
Profitez-en. C'était la planète du jazz.
À la planète prochaine.